Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Faire famille, une série d'Émilie Chaudet réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a la question de la PMA pour toutes et toutes les familles qui nous entourent, névrosées, nombreuses, monoparentales, dysfonctionnelles, bienveillantes, chaleureuses ou toxiques. Et il y a les histoires qui les fabriquent ou les disloquent et tout ce qui les lie. Alors pour commencer, les personnages. Des dizaines de Chaudet, un père et sa fille, deux sœurs très proches, un père adoptant, un fils et ses racines, une mère difficile à suivre et des grands-parents perdus. Ensuite, le décor, des liens, les codes de la bourgeoisie, la reconnaissance, l'abandon, l'enfant rêvé, des cigarettes, des séparations et un cabinet de médiateurs. Aujourd'hui, premier épisode, réunion de famille.
Je m'appelle Jacqueline Chaudet, j'ai 84 ans. Voilà, je suis la doyenne de la famille Chaudet. Voilà.
Par exemple, de m'avoir rencontré moi, de savoir que je m'appelle Chaudet, qu'est-ce que ça vous fait ?
Ben moi, je voudrais que vous essayiez de chercher un petit peu.
D'où je viens ?
Oui. Ça vous donne pas envie ?
Ah bah si.
Oui. En 1776, c'est là qu'on a commencé à trouver 15 ou 16 Chaudets. Donc, de ces Chaudets-là, il en est parti des gens. Hein. Voilà. Alors, il y a des branches. Hein. Des branches. Alors, qui sait ? Ça nous ferait plaisir que vous soyez de notre branche. Ou même d'une branche à côté, c'est pas grave. On serait cousins comme ça. Cousin-cousine.
C'est à la fin de l'été dernier. Je me retrouve invitée là, dans cette maison près du Mans, où tout le monde se connaît et porte le même nom de famille que moi. Ils sont tous réunis dans un grand jardin. Ils se racontent les dernières anecdotes de famille. Ils sont presque une centaine et je ne les ai jamais rencontrés. Ce jour-là, j'ai été l'une des leurs. J'ai mangé à leur table. J'ai posé sur la photo de groupe. Sans plus de lien que ce nom de famille commun. Faire famille. Premier épisode, inventer des liens. Émilie Chaudet, Jean-Philippe Navarre.
Tu es dans mes bras, hein. T'es difficilement reconnaissable. Hein. Il y a dans mon attitude une certaine douceur, hein, non ? Et donc ça doit être dans l'appartement où on habitait, hein, probablement à Nantes. Voilà, ce qui est étonnant, c'est le premier plan avec une genre d'étagère, hein, qui est devant. Donc c'est comme si on avait été épiés, hein, dans cette relation d'intimité, finalement. Tu regardes peut-être ta mère, quoi, en fait. Hein, et moi, je te regarde, quoi. Voilà, je m'appelle Philippe et je suis le papa de Lucie.
Et je m'appelle Lucie et donc je suis la fille de Philippe. J'allais dire la fille de mon père, mais on s'est appelé Anas. Ouais. Et t'as vu, c'est écrit derrière Chantenay 87. Tu dis c'était là où on habitait, mais t'habitais pas avec maman en 87.
Bon, disons, moi j'avais un appartement, mais j'étais souvent avec vous, en fait.
Tu me disais, mais comment ça se fait que tu sois là dès que j'ai peut-être 5 mois et j'ai jamais tout à fait bien compris. Ça paraît bizarre de demander ça à 31 ans. Mais si tu étais déjà avec maman, si tu t'es mis avec maman quand elle était enceinte, parce que j'ai cru que vous étiez amis et qu'ensuite vous étiez mis ensemble, mais après ma naissance.
Que je commence. Donc je m'appelle Laura, j'ai 33 ans et je suis la dernière d'une première fratrie de 3 enfants et j'ai donc 3 demi-frères et sœurs dont l'aîné a 12 ans, le deuxième va avoir 11 ans et la troisième a 4 ans.
Je m'appelle Maria, donc j'ai 39 ans et je suis l'aînée d'une multiple fratrie. Voilà.
Vous avez toujours été aussi proches toutes les deux ?
Non, pas du tout. Mais pas du tout. Non, c'est très récent qu'on soit aussi proches.
C'est-à-dire, j'ai pas été proche de mes frères et sœurs. J'étais responsable d'eux. Je m'entendais pas avec mon frère.
T'étais très proche de moi quand j'étais toute petite.
Voilà, quand elle était bébé, oui. notre mère, pas malgré le fait qu'elle eut 3 enfants, une grande vocation maternelle. Et donc, quand ma sœur était enfant, et qu'elle pleurait, j'allais la voir. Parce que sinon, personne n'allait la voir, je crois. Elle n'était pas dans un truc très aimant, en général.
Marco !
Je suis très pot de colle avec mon fils. La première photo que j'ai vue de Marco, il avait 2 mois et demi. La première fois que sa maman l'a vu, t'avais 4 mois et demi. Et la première fois que moi je t'ai vu, t'avais 5 mois et demi. Voilà. Tu es arrivé à la maison, tu avais 7 mois. Je crois que c'est la première fois, tu vois, qu'on est tous les deux et qu'on en parle un peu comme ça.
Vous fréquentiez.
On vivait un peu séparément, tu sais, on est un peu libertaire dans la famille, donc on a eu. Voilà. On... Non, c'est pas
si,
clair
si,
ce que
si,
tu dis.
Si, 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 si.
Oui, on avait une relation amoureuse, voilà. Et tu étais déjà né. Mais je connaissais ta mère depuis très longtemps, donc. Voilà.
Mais quand tu veux séduire une femme qui a un enfant, est-ce que tu. Tu n'es pas particulièrement gentil avec son bébé.
Ah oui. Ah non, je crois pas. Je pense que non. C'est vrai que c'est une relation étrange, hein, effectivement, d'entamer une relation avec une femme qui vient d'avoir un enfant et qui n'est pas le tien, quoi. C'est un peu. C'est pas très raisonné, les relations amoureuses. Donc, de fait, voilà, les choses sont là et on fait avec ce qui nous arrive.
Mais ça t'a pas fait peur?
La preuve que non.
Ouais.
Je ne me projetais pas du tout dans un rôle de père. Par contre, effectivement, dans une relation qui se met à s'établir de manière plus évidente, se posent ces questions. Mais c'est un chemin qui se fait assez lentement.
Quand tout le monde te dit « Ouais, qu'est-ce qu'il est beau, Marco ?» Je dis « Bah, c'est normal, c'est le portrait de son père. » On rigole de ça, on rigole de notre ressemblance et de notre... Non ?
Moi aussi. Après, les blagues, c'est compliqué.
Tu trouves qu'on se ressemble ou pas ?
Ouais.
Ouais ? Physiquement, tu trouves qu'on se ressemble ?
Le caractère.
Mais est-ce que t'as pris le bon caractère ou le mauvais caractère ?
Le bon.
Ah ouais.
Alors Marco, en fait, moi j'ai voulu te rencontrer parce que ton père, Grégoire Korganov, lorsqu'il a rencontré ses derniers modèles pour la série de photos Père et Fils, a dit que cette série de photos lui avait été inspirée par toi et par les questions que tu lui posais quand tu étais petit.
Ça me marquait beaucoup, je me demandais vraiment pourquoi moi je suis noir et toi t'es blanc, pourquoi il y avait une telle différence. Les autres gens, ils avaient en général une maman blanche et un papa blanc et eux-mêmes étaient blancs.
Sa mère et moi, on avait une amie qui vivait au Rwanda, qui travaillait pour la communauté européenne sur la Kachacha, qui étaient les procès qui faisaient suite au génocide. Et puis un jour, elle a visité un orphelinat des petites sœurs de Mère Teresa, à l'intérieur duquel il y avait une 100aine d'enfants. Et nous, on relançait à l'époque, on avait déjà une autre fille, donc on relançait un peu comme ça... Notre projet d'adoption, c'était avant Noël. On a envoyé une photo de la famille. Donc c'était sa mère, moi et Tania, qui avait à l'époque 3 ans. À ce moment-là, c'est toujours un peu délicat. Donc on avait dit un bébé. Et comme en France, il y a des degrés d'agrément, on avait fait une demande d'agrément pour un enfant en bonne santé. Donc on avait dit un enfant en bonne santé, ce qui est toujours un peu, toujours un peu délicat quand on fait ces soins-là. Voilà, puis on avait envoyé ça tranquillement. Et au mois fin mars ou début avril, on a eu un coup de téléphone de Sœur Gracias, ça ne s'invente pas, qui nous a dit, voilà, il y a un petit garçon qui vient d'arriver à l'orphelinat. Il s'appelle Marco, parce qu'il était arrivé le jour de la Saint-Marc. Il est en bonne santé. Et si vous voulez l'adopter, c'est possible.
Au début, Lucie m'appelait Pile, donc on n'était pas dans le papa, quoi. Je pense que déjà il y a toutes les questions un peu matérielles qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire s'occuper d'un enfant, les couches, le bain, les choses comme ça, quoi. Bon, s'occuper d'un bébé, c'est ça, quoi. Hein, aussi, parler avec entre 5 mois et 1 an à peu près. Lucie a marché assez vite. Hein. Mais voilà, ça se passe comme ça dans la vie du quotidien, puis après la crèche, l'emmener à la crèche, voilà, ce genre de choses.
Mais il y a une différence, vous l'avez bien dit, c'est s'occuper d'un enfant. Peut-être qu'il y a une différence entre s'occuper d'un enfant et devenir son père.
Ben, je pense que c'est aussi les rapports entre sa mère et moi, quoi. C'est un peu le désir de la mère aussi, de trouver un père en fait.
On n'avait pas d'affection, pas beaucoup d'affection de la part de notre mère, un père très absent. Et à côté de ça, un truc très sévère, quoi, très cadré. C'est-à-dire que les baffes que je lui mettais, je pense que c'était les baffes que moi, je me prenais. Quoi. Moi, j'ai pris des tartes jusqu'à 15 ou 16 ans, hein, et c'était jusqu'à ce que je parte en fait, de chez moi. Et c'était assez... c'était pas une enfant battue hein, du tout, mais... Voilà, les écarts n'étaient pas tolérés et il y avait une sanction qui était physique, quoi.
Ce qui n'était pas le cas pour nous.
Non, j'étais la seule. Ouais. J'étais la seule. Heureuse. Depuis, j'ai bien compris tout ce qui n'était pas normal dans ce type d'éducation. Et, par exemple, ma fille n'est pas une élève absolument pas comme ça. Et voilà, jamais je ne lèverai la main sur elle. Voilà, jamais.
Vous avez grandi dans quel genre de famille ?
Très bourgeoise.
Très bourgeoise.
Avec pas de problème d'argent, avec un grand appartement, avec la scolarité privée, catholique.
Voilà, voilà. Destiné à intégrer l'élite.
Suivre le chemin de grands-parents.
Suivre le chemin de grands-parents, nos parents. Famille d'énarques. Donc, on est t'es censé, en tout cas moi, en tout cas en tant qu'aînée, c'est vraiment, c'était très clair, je n'avais pas, même pas le loisir d'imaginer un avenir autre que celui-là. Et objectivement, je voyais mon père, je comprenais absolument rien à ce qu'il faisait comme métier, c'était complètement abstrait, et il n'avait pas l'air très heureux, quoi. Alors peut-être qu'il avait beaucoup de pouvoir, mais c'est quelque chose qui m'a jamais donné envie de le ressembler. Et même au contraire, peut-être de ne pas le ressembler. Enfin, c'était plutôt ça, mon objectif.
Du coup, vous avez fait... C'est quoi votre parcours, votre trajectoire ?
Nous sommes des artistes.
Raté. Mais on a essayé. C'est les avantages de cette famille bourgeoise.
S'il y avait une image qui vous revenait de votre enfance en famille ou de votre adolescence en famille, ce serait laquelle ?
J'ai pas de très bons souvenirs en fait, c'est ça qui est...
Non mais c'est terrible, mais toutes nos vacances se résument à l'organisation de vacances dans la maison familiale de la grand-mère avec les oncles, les tantes, les cousins, et ta mère qui fait les valises au bout de 48 heures en disant on s'en va, j'en peux plus, puis en fait elle défait les valises 12 heures après, et donc tu manges à l'étage du dessus pendant que tes cousins et ta grand-mère mangent à l'étage du dessous, enfin c'est ça les vacances d'enfance, donc oui, je sais pas, c'est spécial.
Et même nous, entre fratries de cousins, on était instrumentalisés les uns contre les autres. Non, c'était pas des souvenirs très agréables. Ensuite, oui, des souvenirs agréables quand même, mais qui sont plutôt individuels. On avait une grand-mère qui s'est beaucoup occupée de nous, et donc ça c'est des bons souvenirs. On passait, elle venait s'occuper de nous mercredi après-midi, on était chez elle les week-ends. Et,
elle nous racontait des histoires,
nous chantait des chansons, nous faisait des crêpes, elle nous faisait du pop-corn, on allait ramasser des marrons. Enfin, vraiment, les souvenirs, elle avait une patience infinie. Nous, chez nos parents, c'était assez mort, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, il n'y avait pas de vie vraiment, quoi. La semaine, on apercevait notre père le matin, le soir, mais on partageait pas grand-chose. Et puis les week-ends, on faisait des activités, soit chacun de notre côté, c'est-à-dire qu'il faisait des trucs et nous, on se démerdait.
Dormait surtout.
Oui, oui, il dormait. Enfin, il faisait des choses sans nous, quoi, tout en étant à côté de nous, mais pas avec nous.
Après, bon, c'est vrai que les relations étaient compliquées parce que sa mère a décidé de partir. Enfin, au bout d'un an. Comme ça, elle dit, j'ai demandé ma mutation, je vais à La Rochelle.
Mais je ne savais pas que vous étiez séparés à ce moment-là.
On a continué à se voir, j'allais à La Rochelle, et là, je venais voir Lucie, et puis sa mère, quoi.
Et tu venais me voir ou tu venais voir maman ?
C'est un peu compliqué pour moi, quoi, savoir ça. Je pense avant tout, c'est peut-être ta mère, mais bon, je crois que non, je pense que j'étais attaché aussi. On avait commencé une relation de fait tous les deux. Mon statut a un peu changé à ce moment-là. Et puis, je m'occupais aussi un peu de ton frère à Nantes, parce que lui, il avait été laissé de côté. Ça devenait une relation un peu étrange, puisque moi, je restais avec ton frère à Nantes.
Après, je me souviens que vous n'avez pas habité toujours ensemble, même après quand maman est revenue à Nantes, hein, je crois. Donc j'avais quand même ce truc d'appartements séparés. Donc il y avait chez toi, chez papa, et chez ma mère. Mais en même temps, comme j'ai pas d'autres modèles, quand t'es petit, tu vois, tu te dis pas forcément que les parents habitent ensemble.
Lucie, tu peux faire un point sur ta famille, c'est-à-dire que là, on parle de tes frères, de tes sœurs. Oui.
Alors en fait, moi j'ai un grand frère qui a 18 ans de plus que moi et une grande sœur qui a 15 ans de plus que moi et qui sont les enfants de ma mère, donc d'un premier mariage. Et donc voilà, c'est mon frère et ma sœur. J'ai jamais appelé ni demi-frère ni demi-sœur, ça a toujours été mon frère et ma sœur.
Et toi ?
J'ai un père et j'ai un géniteur. Et je connais un peu l'histoire, je sais que ma mère a une relation assez longue avec cet homme, donc c'était pas juste un homme de passage. Ce qui est un peu étrange, c'est que certainement que papa, toi, tu connais mieux cet homme que moi-même. Parce que c'est un peu... Même mon frère et ma sœur l'ont déjà vu. Enfin, c'était pas caché, je pense. C'était pas tout à fait officiel. Je n'ai jamais trop su quel était le statut de ma mère pour lui. Mais ça a duré suffisamment longtemps pour que quand même, en tout cas, les gens autour de ma mère connaissent cette personne. Mais moi, je ne le connais pas. Je le connais pas, si ce n'est qu'une fois, je pense que j'étais beaucoup plus âgée, je pense que j'avais déjà peut-être 22 ans, et j'étais à Nantes, et en fait, je sais à peu près où il habite, parce qu'il habite à Nantes, et j'ai vu quelqu'un dans la rue, et je suis sûre que c'était lui, parce que c'était vraiment proche de là où il habitait, et j'ai reconnu la femme, je sais comment elle est physiquement, parce qu'ils ont un fils qui a un an de moins que moi, et qui a fait du judo avec moi quand j'étais petite à Nantes. Et donc au dojo, c'était complètement surréaliste et bizarre à gérer, petite, mais il y avait ma mère sur un banc, et la mère de ce frère biologique, en fait, enfin je sais pas comment on dit, demi-frère biologique, qui était là. Donc elle, je savais qui c'était, et quand j'ai vu dans la rue cette femme avec un homme qui était grand, qui était un peu maigre, et enfin, ça m'a fait un choc très bizarre de « waouh, en fait, c'est lui !» J'étais en train de prendre ma pause déjeuner sur les marches de l'église, et « waouh !» Et j'ai couru et j'ai appelé ma sœur, qui m'a dit « oublie ce que tu as vu !» Je me suis dit « ça fait difficile quand même !» Et en fait, si, elle a eu raison, c'est passé.
Enfin, finalement, dans cette famille, chaque enfant a un statut spécifique et celui de Marco n'est pas plus exceptionnel que celui des autres. L'histoire, moi, j'ai pu la recomposer assez facilement, en fait. En plus, le Rwanda, l'avantage, c'est qu'il y a une unicité dans les noms. À partir du moment où j'ai pu retrouver le nom de sa première maman, les choses, les informations sont revenues plus facilement, finalement. Marco, il est retourné au Rwanda il y a maintenant presque 3 ans. C'était un engagement qu'on avait pris vis-à-vis de lui. On lui avait dit que si à l'âge de 10 ans, il avait envie d'y aller, il irait.
C'est moi qui avais demandé.
Ouais, voilà. Et c'est toujours ce que j'ai dit à Marco. J'ai dit à Marco, si tu as envie de savoir, si tu as envie de te confronter à ton histoire, tu peux le faire. Mais après, je te poserai la question à toi, Marco. Mais moi, je l'ai fait pour lui. Je me suis dit, ce qui est horrible, c'est de se confronter au vide. Je me suis juste dit, voilà, si à un moment il a envie de savoir, si à un moment il a envie d'ouvrir la boîte de ce qu'a été le début de sa vie sans nous, parce que c'est ça qu'il faut comprendre qui est compliqué dans l'adoption. C'est pas une fois que Marco est à la maison, on se pose plus aucune question. Je me dis pas, il est adopté ou pas adopté, c'est mon fils de la même manière que s'il sortait de ma chair. Je me pose aucune question, tu vois. Ce qui est difficile, c'est ces moments de vie qu'il a eu sans toi. et où tu te dis, j'ai pas pu lui épargner cette souffrance-là, j'ai pas pu le protéger à ce moment-là. C'est-à-dire que les 2 mois et demi où Marco a été, il a eu la chance d'avoir une mère qui l'aimait, une première mère qui l'aimait, qui s'est occupée de lui le mieux qu'elle a pu et le temps qu'elle a pu. Mais ce moment de l'abandon, en fait, c'est ça qui est dur, en fait.
C'est les pages d'avant. Hein,
non, je suis première enfant. J'ai un carnet de famille, un livret de famille où il n'y a que moi. Et elle en a un pour mon frère et ma soeur et un pour moi. Je suis toute seule dessus.
Ah bon?
Ouais.
D'accord. Ah bah écoute, une surprise un peu. Je pensais que... Ou alors elle en a refait un autre.
Alors, ouais, ou elle en a refait un autre. Peut-être. Ou alors, parce que quand tu changes de père, tiens, tu changes de livret de famille, je sais pas. Bon. Donc ils me disent ma date de naissance, 10 juin 1987. Et ensuite, j'ai une mention marginale. Tu es la mention marginale, papa. Écrit à la main, alors que le reste est tapé à la machine. Et c'est marqué, reconnu à Nantes, le 9 novembre 93, par Philippe Chester. Donc là, il y a un premier tampon. Et ensuite, il y a une autre écriture, donc manuscrite, qui rajoute de nouveau, par décision en date du 8 juin 2005, cette fois, prend le nom de son père, soit Chester. Donc c'est écrit... Donc c'est un peu, c'est rigolo, c'est vraiment tout est clean. Et puis tout d'un coup, il y a la vie qui gribouille plein de trucs.
C'était aussi un désir de sa mère, hein, de faire en sorte que Lucie ait vraiment un père officiel. Donc il y a un côté un peu légal, quoi, dans cette reconnaissance. Parce qu'en fait, on peut tout à fait vivre avec des enfants sans les reconnaître et les élever et les aimer. Voilà, c'est ça.
Entre la reconnaissance et l'adoption, c'est aussi un peu différent. Finalement, moi, je vais dire « Ah, bah, tu es mon père adoptif », mais en fait, légalement, pas vraiment, en fait. C'est ça qui est drôle aussi, c'est que c'est très différent reconnaître « Oui, en effet, il n'y avait personne, et puis il a suffi que tu mettes ton nom ». Et d'ailleurs, même, moi, je me suis mariée l'année dernière, et en effet, quand ils lisent l'acte de naissance, c'est différent. Ils ne précisent pas... Si tu es mon père à part entière, c'est comme s'il y avait une espèce de gap de 6 ans, mais la justice, la loi, s'en préoccupe pas trop, en fait. Il n'y avait personne et tout d'un coup, il y a quelqu'un. Alors que j'ai un ami qui était adopté par son beau-père, donc c'est une histoire différente. Et à son mariage, ils ont été obligés de préciser le nom de son géniteur et dire adopté par son père.
Avant qu'elle devienne majeure, si elle était reconnue par son géniteur, d'un seul coup, il devenait le père légal, quoi. Et je pense que sa mère a quand même un peu insisté à mon égard pour que je reconnaisse Lucie. Bon, ça met du temps, il faut réfléchir, et puis ça va.
Réfléchissiez à quoi ?
C'était un peu compliqué, quoi, de reconnaître un enfant dont on n'était pas géniteur. Vous savez, c'est les choses d'appartenance, alors oui, hein, ça m'appartient à papa, est-ce que c'est un enfant, est-ce qu'elle appartient à quelqu'un, enfin vous voyez, c'est des questions un peu...
Ce que je lui dis toujours, quoi, j'aurais pas pu rêver d'avoir un autre fils, j'aurais pas voulu avoir un autre fils.
C'est un truc vraiment très 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 fort, genre, notre relation.
La particularité de notre relation, elle est juste là. Elle n'est pas dans le fait que tu es noir et que je suis blanc, tout ça, on s'en fout, sincèrement. Avec Marco, le fait d'être son père, parce que c'est un garçon, me renvoie au fils que j'étais et au père qu'était mon père, en fait. Donc, en clair, je me dis, surtout ne pas être le même père que mon père. En commençant le travail sur les pères et fils... J'ai énormément adouci mon rapport à mon père et du coup j'ai adouci mon rapport avec les autres pères. Au début, je voulais un peu régler mes comptes. Je lui ai dit, ouais, tu vas voir, j'ai montré des pères et des fils, ça rigole pas, quoi. Hein, tu vas voir comment nous, notre génération, on est avec nos fils. Moi, en plus, j'ai été élevé par mon père. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le filtre de la mère, les frères et sœurs. Moi, très vite, je me suis retrouvé dans une espèce de rapport à deux avec mon père. À l'adolescence, c'était plus compliqué. J'avais un peu honte de ce père à qui je trouvais tous les défauts, en fait. Et c'est au moment où on devient père aussi qu'on devient plus indulgent aussi avec son propre père. Parce qu'on fait l'expérience de la difficulté d'être père. Hein. Et la difficulté d'être père, c'est la difficulté de s'émanciper de son propre père. Et je pense que même toi, Marco, quand tu auras des enfants, tu t'efforceras de ne pas être le même père que le père que je suis.
Elsa improvise des chansons régulièrement sur ses parents. Donc elle chante qu'elle fait pipi sur sa mère, hein, que c'est vraiment super. Qu'elle fait caca sur son père et que c'est vraiment hyper super. Et donc elle en a fait une autre, un peu dans le même genre, mais enfin qui est plus longue, où je lui réponds quand même. Elle me dit que je suis une fleur, puis après elle me dit que je suis une fleur qui pique. Voilà. C'est très bien, en tout cas, qu'elle s'exprime.
Elle a quel âge, ta fille ?
Elle a 6 ans. Nos parents étaient mariés depuis presque 35 ans. Et c'était pas la fête, hein, tout le temps, mais mon père était quand même très amoureux. Enfin, moi, je me rappelle que la semaine avant qu'on apprenne qu'ils se séparaient, il avait acheté de la lingerie, il l'avait coupé dans un coin, il lui avait dit textuellement « Ma chérie, c'est merveilleux, avec toi le temps passe si vite, on ne s'en rend pas compte. » Voilà. Et la semaine d'après, moi, il m'a appelé à 19h, un lundi, en disant textuellement « Bonsoir, je t'appelle pour te dire que j'ai une liaison donc, depuis 10 ans, avec une femme avec qui j'ai 2 enfants, donc je demande le divorce, je viens de tout dire à ta mère, elle est partie pour se suicider, c'est une urgence, il faut que tu la retrouves. »
Et il a fait ça pour nous trois. Il a fait ça pour nous trois. Et premier réflexe, après cette nouvelle, je vais aller voir ma grande sœur, et puis on va en discuter. Et donc il a fallu retrouver la mère.
Oui, il a fallu qu'on cherche hein, notre mère, voilà. Parce que bon, on peut pas rester comme ça, après sans rien faire. Puis ma mère est revenue. Et ça a été très, très, très compliqué.
Pendant
des mois.
Ouais.
J'entrais en 6e. C'était mon passage entre le CM2 et la 6e. J'avais 10, 11 ans.
Sa mère est revenue de La Rochelle, donc avec Lucie. On a vécu à Nantes. Et ça a duré peut-être 1 an, 2 ans. Et là, les choses ont été un peu compliquées. Sa mère a décidé de partir. Ça a été encore une nouvelle séparation. Bon, on habitait encore très, très près... l'un de l'autre, donc Lucie pouvait venir. Elle avait juste à presque traverser la rue pour venir me voir. Mais ta mère a décidé de repartir sur La Rochelle. Du coup, là, la séparation était plus longue. Et moi, je vivais avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai toujours fait attention à ce que Lucie connaisse ses repères. Enfin, les repères. Parce que Lucie me faisait un genre de chantage.
C'était quoi mon chantage ?
C'est moi ou c'est elle, faut que tu choisisses entre ta relation et...
Ah, pour moi, c'était ta compagne de l'époque qui me faisait ce chantage-là. Oui, tu opines du chef, tu es d'accord sur ça au moins. Mais...
bon, en tout cas, toi, tu as fait ton parcours de ton côté, moi aussi. Puis on a pu continuer notre route ensemble.
C'est-à-dire que je pense quand même que malgré tout, elle faisait des efforts. Enfin, je pense que je peux reconnaître ça parce que je pense qu'elle avait ça marchait pas et qu'elle faisait quand même l'effort de m'avoir chez elle. Et moi, je faisais les efforts de quand même venir le temps réglementaire et puis j'avais envie de te voir. Mais on avait une relation qui était pas très simple. Ça a vrillé et en fait, je pense que l'animosité qui était là, elle s'est formulée dans les gestes et cette femme-là, elle m'a tapée. Je l'ai très mal vécue. Et donc je sais que c'était un twist très fort, je suis rentrée chez moi, ça a cassé quelque chose à l'intérieur, mais même pas tant que cette femme puisse lever la main sur moi, mais que toi tu réagisses si peu à ce moment-là, je sais que moi ça m'a vraiment troublée. Donc j'étais en cinquième, ma mère s'est réemparée aussi de ça pour me protéger, donc elle a dit « tu ne verras plus ton père », mais en même temps elle-même, elle avait certainement ses propres sentiments dedans. Mon frère, donc mon grand frère qui a 18 ans de plus que moi, s'est introduit là dans ce micmac pas possible. De toute manière, c'est pas ton père. Malgré tout ce qui se passait, s'il y a bien une chose que je remettais pas en question, c'est que t'étais mon père.
Lui, du coup, même sur le moment, il était perdu, il savait plus. Donc c'est moi qui lui ai fait sa valise. Je lui ai dit, écoute, pardon, ça suffit, je vais te faire ta valise. Donc je puis ça fait, on braque dans les sacs. Je lui ai dit, tu les prends et tu te casses et tu ne reviens pas. Quoi. Tu veux la tuer, tu continues. Quoi. Parce qu'on l'avait fait hospitaliser en psychiatrie, signer des décharges pour qu'elle ressorte. Elle avait tous ses médicaments, on la faisait hospitaliser, re-signer des décharges. Non, ça a été très très violent, hein. Parce qu'elle nous a dit qu'en gros, on n'était pas...
Elle a dit qu'elle ne voulait pas, en fait. Elle n'avait jamais voulu être mère. Qu'elle l'avait fait parce que son mari voulait ça, et donc...
C'était pour faire plaisir à notre père.
Voilà, comme elle l'aimait, plus que tout. Qu'elle n'a toujours connu que lui, ils ont été très très jeunes ensemble. Et voilà, donc elle a fait des enfants alors qu'elle ne voulait pas.
En fait, donc elle nous a dit droit dans les yeux qu'elle nous avait jamais voulu, que de toute façon on lui ressemblait pas, qu'on ressemblait à notre père, et que même finalement elle allait nous faire du mal, parce que c'est comme ça que mon père il souffrirait, puisque lui il nous aimait visiblement, enfin pour elle. Donc c'est quand même aller très très loin.
Bonjour.
Merci de nous recevoir.
Merci. Ma collègue, Madame Rakidel.
Enchantée.
Très bien. À côté. Ça va être assez succinct pour visiter. Voilà. Vous êtes à Trialogue, service de médiation familiale, qui existe depuis 21 ans.
Ouais.
Qui est un service indépendant qui ne fait que de la médiation familiale.
C'est une association, Trialogue.
Association à 1900, hein, oui. Nous sommes 5 médiateurs familiaux et une secrétaire. On n'est pas habitué à ce type d'exercice. Bah
ça va très bien se passer.
C'est pas du tout une forme de travail.
C'est plutôt vous qui posez les questions dans votre travail, non ?
Oui, il y a normalement deux rendez-vous cet après-midi. Un rendez-vous avec un monsieur qui, j'espère, va venir. Et le deuxième entretien, ce sont des grands-parents qui étaient aussi en recherche pour trouver des solutions par rapport au fait qu'ils ne voyaient plus leurs petits-enfants. Voilà.
Pourquoi on vient vous voir ici ?
En tant que service de médiation familiale, le public principal que l'on reçoit, c'est des personnes qui vivent une situation de séparation et qui veulent mettre ou remettre en place de la parole, de l'échange, pour parvenir à une prise de décision. C'est des personnes, des fois, qui sont déjà séparées et qui veulent revoir des accords qui avaient été trouvés à une époque, mais on peut aussi recevoir des personnes en pleine séparation et qui doivent réussir à s'ajuster en attendant une décision de justice. Et puis, on a aussi, des fois, des personnes qui, directement, souhaitent construire un projet autre par rapport à leur séparation et prendre le temps, en s'appuyant sur la tierce personne qui est le médiateur ou la médiatrice familiale, réussir à avancer, à cheminer et à construire leur projet de séparation, pour le dire simplement.
On vient pour vous expliquer nos soucis avec nos petits-enfants. Donc, on ne voit plus nos petits-enfants depuis...
Bientôt 6 mois.
Bientôt 6 mois. Tout ça parce que notre fille est à nouveau avec un nouveau compagnon, ça fait le troisième. C'est lui qui empêche qu'on voit nos petits-enfants, alors que ce ne sont pas ses enfants. Et en fait, nous, on les avait régulièrement, on les avait à chaque vacances, la première semaine ou la deuxième, mais enfin, on les avait 8 jours.
Bon, si vous voulez bien, je vais peut-être revoir avec vous si notre service peut vous aider. Comment vous en êtes arrivé à songer à la médiation familiale ?
De toute façon, avec
tout
notre fille, c'est impossible d'avoir un dialogue.
Elle est sous la...
Donc, c'est pour ça que...
La commande de son nouveau copain.
Pas tous les deux en même temps, parce que je... Monsieur, allez-y.
Je dis, elle est sous la coupe de son nouveau... Alors lui, c'est...
Compagnon, parce que c'est un homme violent, en plus. Ouais. Donc, ça fait peur. Bon. En fait, on a peur pour nos petits-enfants. Voilà. Et Cassie est fâchée aussi, parce qu'elle nous a... Parce que je ne vous dis pas que notre fille nous doit beaucoup, beaucoup d'argent. Et elle nous a redemandé de l'argent et on a dit stop, c'est fini, terminé. On lui a acheté une voiture parce qu'elle a eu un accident de voiture.
Quatre voitures.
On lui a donné 8000 euros pour acheter une voiture et au bout du compte, ils n'en ont rien à fiche. Et il a dit à mon mari, on ne vous a rien demandé. Et il roule sans carte grise, il n'a pas.
Depuis un an.
Et il a voulu taper sur mon mari.
Oui, en plus.
Ouais. D'accord. Bon. Quelle ambiance. Vous permettez, je vais commencer à noter vos noms, adresses. Alors, donc vous êtes monsieur et madame, d'accord, votre adresse ?
Et je vais même vous demander
votre âge.
Alors, 71 ans.
72 ans.
72 ans, d'accord. Vous avez eu des enfants?
Oui, deux. D'accord. Depuis les divorces, c'est la catastrophe.
Ils ont divorcé tous les deux.
Mais... Et alors, du coup, votre fille, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue?
2010.
D'accord. Il a des enfants?
Alors, il a, oui, trois. Et de son second mariage, il a une petite fille.
Il a quatre enfants?
Oui.
D'accord. Que vous ne voyez pas?
Non. On les a vus un moment, puis on ne les voit plus non plus.
Nos parents étaient mariés depuis 35 ans. Elle a mis 2 ans à se sortir du truc.
Ouais, même plus.
C'était il y a 10 ans. 3 ans qu'elle est stable. Et voilà, et c'était très compliqué avec notre père après ça. C'est-à-dire que...
C'était compliqué avec les deux, en fait.
Voilà.
Parce que c'était... Bon, il y avait peu de stabilité d'un côté et de l'autre.
Non, c'est toujours été compliqué.
Donc on a trouvé une grande stabilité entre frères et sœurs.
C'est ça.
On s'est rendu compte qu'on pouvait compter les uns sur les autres, en fait.
Non, puis c'est même au-delà de ça. C'est-à-dire, moi, enfant, je me suis jamais entendue avec mon frère. Enfin, vraiment, on est deux opposés. Et même en tant qu'adulte, on est deux opposés. C'est-à-dire que ce serait pas mon frère, ce serait quelqu'un... aucune occasion de rencontrer, et si je le rencontrais, ce serait sans doute pas mon ami, parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne partage pas les mêmes visions de la vie. Mais c'est mon frère. Et au titre de toute cette espèce de merde hein, familiale, je veux dire, ces rapports toxiques, violents, ces choses qui sont déséquilibrées, on n'a pas de parents, en fait, vraiment sur qui compter. Mais même en tant qu'adulte, même si on est déjà, on n'en a plus besoin, c'est qu'on attend quand même quelque chose comme ça hein, de leur part. Mais il n'y a pas. Donc, moi, mon frère, même si j'ai rien à voir avec lui, on veut que nos enfants se connaissent. Tout justement l'historique de vendetta, de conflits familiaux qu'il y a pu y avoir entre nos parents et leur propre famille. Jamais de notre vie, on voudrait que nos enfants vivent ça. Notre cellule familiale, bah, finalement, c'est nous trois, frères et sœurs. On sait que si on a un gros problème, on peut s'appeler, on fera ce qu'on peut, les uns pour les autres. J'appelle plus facilement ma sœur que ma mère, hein, ça c'est sûr.
Est-ce qu'il y a un moment donné, vous avez eu quand même des relations, des bonnes relations avec votre fille quand
oh,
même.
Ça toujours. Ça fait 30
c'est
ans.
C'est aléatoire.
Ça
c'est
fait
30 très
ans,
très donc... compliqué. Si vous ne faites pas ce qu'elle veut, elle était trop pourrie à mon avis de toute façon.
Pourrie.
Ah oui, elle était trop. Ah oui, oui.
À son premier mariage.
Qu'est-ce que vous entendez par pourrie?
Mais elle a toujours, on lui a jamais non plus peut-être trop dit non, et voilà. Et pour elle, maintenant, on doit faire tout ce qu'elle veut.
Il y a beaucoup d'argent en question.
Sur son cas, elle, oui, il y a beaucoup d'argent, parce que...
C'est quand même quelque chose.
Mais elle empruntait de l'argent dans toutes les boutiques qui prêtent de l'argent. C'est une histoire de fou.
Votre demande, c'est par rapport aux enfants.
Oui,
c'est uniquement pour les enfants. Hein.
Et là, je sais pas. On n'arrive pas à comprendre. On se pose même la question si c'est bien notre fille. Donc c'est pour vous dire à quel point qu'on en est arrivé. Hein.
Alors, elle s'appelle comment maintenant votre fille?
On ne sait plus.
Alors vous, si vous imaginiez qu'elle était là, ce serait quoi votre demande là par rapport à...
Ah ben nous, c'est simplement avoir les
enfants. Ah nous, on veut les enfants tels qu'on les avait auparavant
vacances,
et voilà. C'est uniquement ça parce que le reste, c'est.
Vous dites le reste, c'est...
Oui, non, mais moi, le reste, sa vie à elle, ça ne me regarde pas. Moi, non, c'est mes petits-enfants.
C'est simplement
qui
avoir
sont...
nos petits-enfants. Tout.
Je pense avoir attiré de ce beau-père qui, pour moi...
Parce que là, votre demande, en fait, c'est même pas... Enfin, c'est au-delà de rechercher des possibilités, aller voir sur des temps de vacances ou de week-end, dans ce que vous dites, dans ce que moi, j'en entends. C'est quand même, derrière ça, une grosse inquiétude que vous avez sur...
Et je vais même vous montrer, parce que je vous ai apporté
quelque
chose. Alors maintenant, je ne sais pas si...
Sur leur qualité de vie, mais aussi sur le fait que vous induisez le fait que pour vous, ils sont maltraités.
Moi, je ne l'ai jamais fait souffrir, Ils ont été heureux, parce que, enfin, dans le sens que nous, on a toujours fait tout pour eux. Ils ont toujours été bien habillés, avec des marques, des ceci, cela. Et elle n'a jamais rien donné à ses enfants. Alors, je vais vous montrer ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça, c'est mon petit-fils. Voilà. Mon petit-fils, l'année dernière, au mois de... C'était juillet-août. C'était pendant les vacances scolaires.
Vous avez donné à qui ces photos?
Je vais les envoyer au procureur de la République. Parce que regardez, il y a ça. Ça. Voilà. Et ça, on a suspicion que ce sont des brûlures de cigarettes. Je ne peux pas rester les mains dans les poches sans rien faire, c'est pas possible.
Donc ça fait partie, si vous voulez, de vos responsabilités quelque part, hein, de grands-parents, d'informer très vite les magistrats. Après, moi ici, je travaille pas dans la partie protection de l'enfance en danger. Je travaille sur la partie remise en lien, possible de remise en lien au niveau des relations entre les grands-parents et les parents, et aussi remise en lien avec les petits-enfants. Vous êtes dans ce contexte où, actuellement, vous n'avez plus accès à vos petits-enfants. Voilà. Donc, ce que moi, je peux faire de mon côté, c'est envoyer un courrier à votre fille, en lui expliquant que que vous êtes venu en entretien d'information sur la médiation à Rouen, et que je souhaite avoir son avis sur la situation, avoir son point de vue, et avoir aussi ce qu'elle, elle demande. En sachant que évidemment qu'en médiation familiale, ça veut dire, même vous, que vous accepteriez de vous retrouver, pourquoi pas, avec votre fille, ici, en séance de médiation, mais peut-être aussi avec son nouveau conjoint.
Alors, on ne veut pas, ça c'est clair. Il est hors de question.
Je vous dis juste...
Mais elle a son ex-mari, c'est plus lui à venir que son nouveau conjoint.
D'accord. Après, j'essaye aussi de voir avec vous les possibles. Pourquoi pas préserver les quelques liens qui sont encore possibles à préserver ? Parce que, au final, il s'agit effectivement, pour vous tous, de rechercher un mieux-être. Parce que vous, dans ce que vous dites, là, ça fait quand même 20 ans que vous vivez un peu, que c'est bien compliqué, que ça ne s'arrange pas. Je peux supposer que votre fille, ça doit être très compliqué aussi, sa vie, et que vos petits-enfants aussi, mais... Voilà, en fait, c'est de tout ça dont il s'agit. C'est-à-dire que si ça s'améliore aussi pour vous avec votre fille, ça va...
Moi, je pense pas. Parce qu'il y a longtemps qu'on a essayé que ça n'a jamais marché.
D'accord,
C'est récurrent chez elle. Okay. Ça dure un moment, après elle va vous retrouver quelque chose et là, ça va repartir. On fait que ça depuis l'âge de ses 17 ans.
Mais peut-être que ça peut continuer comme ça, mais peut-être aussi... qu'il faut mettre en place un système de relations souple, mais peut-être que votre fille, elle peut fonctionner que comme ça. Mais ça ne vous empêcherait pas, peut-être, de pouvoir voir vos petits-enfants. Peut-être qu'elle ne peut pas fonctionner autrement, votre fille, peut-être. Je vais envoyer un courrier. Si je n'ai pas de réponse, je peux moi aussi la rappeler dans la mesure où je vais lui avoir envoyé un courrier. Donc je vais lui demander si elle a bien reçu le courrier, quelle est sa position, d'accord ?
D'accord.
Bon.
Au revoir, messieurs. Voilà. Merci de votre accueil et puis on a le pouvoir de discuter.
D'accord. Merci beaucoup. Au revoir,
Je t'ai écrit une carte postale en proposant un rendez-vous dans un café. Donc en effet, j'avais 12 ans, 12-13 ans. Et tu m'as évidemment dit oui. Et on s'est parlé comme deux personnes qui se rencontrent à un café. Et moi, j'ai eu le sentiment que je disais, bon... Alors, ça ne va pas, mais tu es mon père, on est d'accord là-dessus. Et j'ai l'impression que tu m'as dit, bon, ça ne va pas, mais oui, on est d'accord là-dessus. Et je crois qu'on a... reconstruit à partir de là, mais il a fallu vraiment qu'on se voit en tête à tête pour au milieu de tout ce foutoir, pour se dire qu'on allait quand même continuer à s'accrocher, quoi. Mais moi, je sais que c'était pas facile, Et en plus, t'avais pas l'autorité parentale, ça revenait tout le temps. C'est tout un problème, parce que la question de la reconnaissance donnait pas l'autorité parentale. Je sais pas pourquoi,
ne me l'a pas donné.
Donc même si légalement, il y avait ce petit griffonnage qui disait que t'étais mon père dans le livret de famille, il n'y avait pas non plus tous les droits qui font qu'à un moment donné, un père peut exiger de voir son enfant un week-end sur deux, la moitié des vacances. Donc il y avait un réel risque qu'on soit séparés. Et j'étais jeune, mais j'avais conscience quand même de ça. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé après, quand j'ai pris ton nom de famille, j'étais beaucoup plus Je suis passée devant le juge et je pense que la part légale de notre relation, je trouvais que c'était important de la sceller. Je ne pouvais plus faire plus en dehors de ces liens génétiques qu'on n'avait pas pour qu'on soit complètement père et fille, je pense.
Et vos petits-enfants, quand ils sont nés, quel rapport vous aviez avec eux? Qu'est-ce que vous avec leur disiez?
Oui. Ah voilà. Bah on a toujours été bien depuis leur naissance.
On a toujours on les a emmenés aussi.
On les avait couramment.
En fait, nos petits-enfants, c'est comme on a fait comme pour nos deux enfants. Les aimer, de leur montrer la vie, de s'amuser avec eux, de faire des choses avec eux. C'est pour ça, moi, je comprends pas. Moi, je vais vous dire ça parce que, bon, forcément, nous, on est d'une autre génération. Chez moi, on était 8. Et ben, moi, je faisais partie des moins bien vus avec un autre frère. Et je m'étais toujours dit, quand j'aurai des enfants, eh ben, je leur donnerai tout ce que je peux leur donner. Et c'est comme ça que, ben, peut-être qu'on l'a trop gâté, que, je sais pas.
Moi, à partir de 14 ans, j'ai appris mon métier. Et puis après, ben, quand j'ai eu mon CAP à 17 ans, je suis parti. J'ai réussi enfin à avoir du travail dans l'aménagement des bateaux. Donc on faisait les chantiers navals, on l'a fait. Quand on s'est marié en 69, on a gagné de l'argent. Et puis ben, après, un beau jour, ben, on a dit bon, on s'arrête là. C'était au premier la naissance de notre fils. En 71, et puis j'ai dit, bon, on va faire ça encore une année, puis après on arrête.
On trouvait du travail. Pas, ou alors est-ce qu'elle a eu quelque chose que nous, on n'était pas au courant non plus. Si c'était le cas, elle a eu tort, parce qu'on aurait peut-être pu l'aider. On était quand même proches, c'est pour ça que je comprends pas. J'ai beau chercher, j'arrive pas à comprendre.
Comment vous avez géré cette relation avec votre père après le bouleversement de l'annonce? Comment ça a évolué?
Avec beaucoup de distance. C'est-à-dire que je continue à avoir un lien, mais c'est plus parce que j'ai des petits frères et soeurs. Moi, je suis la dernière de ma fratrie. Donc, je trouvais ça comme une nouvelle expérience, finalement. J'ai des petits frères et soeurs. Et puis surtout, ils existent. Donc voilà, donc j'ai envie de les connaître, j'ai envie d'avoir un lien avec eux, aussi minime qu'ils soient. Mais par rapport à lui, ce qui peut lui arriver m'importe extrêmement peu. Moins je le vois, mieux je me porte. Voilà.
Moi, j'ai pas vu pendant 2 ans. C'était vraiment insupportable, effectivement. Son attitude me mettait très en colère. Et il a fallu que je digère, quoi. Je sais pas comment ça se serait passé si en fait j'avais pas eu ma fille. Parce que après, je suis tombée enceinte. Et là, je me suis posé beaucoup de questions sur justement c'est quoi la famille? C'est bien le sujet. C'est-à-dire, comment on compose avec ça? Parce que j'avais plusieurs options. C'est-à-dire, je pouvais rester sur mon truc, tant pis, hein, je revois pas, j'ai un enfant, mais mon enfant ne connaîtra pas son grand-père parce que je considère qu'il est. Malsain et dangereux, me fait peur, j'ai pas envie que ma fille le connaisse. Et puis j'ai réalisé que. J'avais pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que mon enfant, c'est sa famille aussi, et j'ai pas le pouvoir, le droit de lui interdire de voir des gens de sa famille. Et qu'en plus, ça allait créer finalement l'effet pervers, inverse. J'ai visualisé mon enfant adolescent. Se poser des questions sur son identité, sa famille, et d'une part m'en vouloir de l'avoir écarté de relations avec ses grands-parents, et du coup l'intérêt énorme que l'inconnu, le mystère du grand-père interdit allait susciter. Non, en fait, le mieux c'est qu'elle le connaisse dès le début. Donc je vais manger chez mon père 4 fois par an pour les anniversaires, Noël. Elle le voit d'ailleurs assez peu quand on y va, puisque comme il a des enfants très jeunes, ma dernière demi-sœur ayant 2 ans de moins que ma fille, elle joue avec les enfants. Mais bon, voilà, il est connu, il fait partie du paysage. Ça a remis à plat les rapports de pouvoir. C'est-à-dire que mon père, il ne peut plus jamais venir me regarder en me faisant une critique finalement. Sur un jugement moral de sa part serait vraiment malvenu. C'est-à-dire, j'en ai absolument plus rien à foutre de ce qu'il pense de moi. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux finalement. Je suis complètement libérée. Il a fait sa vie. Moi, je fais la mienne. Et par rapport à ma mère, finalement, c'était pareil. Elle peut pas non plus venir nous expliquer comment gérer notre vie. Donc, s'est réinstauré récemment, depuis 2 ou 3 ans, un rapport qui ressemble vraiment à un rapport mère-fille, de bienveillance, voilà, prendre nos nouvelles.
On est toujours préparé à ce que cette situation puisse se renverser exactement à l'inverse.
Le fait qu'on soit effectivement plusieurs, vers 3, à être confrontés à cette folie, on avait des réponses qui étaient différentes, mais au moins on n'était pas seuls. Surtout c'est effectivement ce manque de chaleur et puis ce pouvoir qu'on ne pouvait pas remettre en question, parce que c'était impossible en tant qu'enfant. C'est les parents, les chefs, ils savent. Et puis on doit le respect, on ne peut pas remettre en question l'équilibre mental de sa propre mère. Bon, on fait avec, on se fait renvoyer que c'est soi-même qui avons un problème. Moi j'ai quand même grandi comme ça. Et donc, bon, c'était un peu tardif, hein, parce que c'est arrivé, j'avais 30 ans, mais c'était une libération. En fait, ils sont vraiment cinglés.
Je suis allé voir le psychiatre. Évidemment, on a parlé assez longuement, plusieurs séances. Et donc, je lui confie aussi les problèmes relationnels, etc. Et entre autres, ceux avec Lucie. Et il m'avait posé la question suivante. Êtes-vous prêt à la perdre ? C'était une question sur le coup qui m'avait scotché, quoi. Et en fait, en descendant l'escalier, mais ça a été très rapide, hein, j'ai répondu oui. Et c'était fondamental, je l'ai compris très rapidement. C'est-à-dire, c'est savoir perdre pour gagner, quoi. Et pour quelle est sa vie d'adulte. Et donc, quand Lucie parlait de cette relation au café qu'on a eue, c'est là où les choses se sont effectivement... Alors, elle le raconte avec sa mémoire, mais moi, ce serait autrement, évidemment. Je pense que j'ai posé un acte avec elle, et cet acte-là était celui de... C'était un peu... J'étais capable de la perdre, parce qu'elle aurait pu me répondre non. Mais ça aurait été pour moi essentiel. C'est-à-dire que j'étais prêt à la perdre, mais pour qu'elle gagne sa... son autonomie de femme, quoi.
Ah, le salaud! Moi, j'étais pas du tout prête à te perdre, hein. J'aurais pas envoyé cette carte postale, ça se trouve, tu serais plus là dans ma vie.
Ah non, je crois pas. Non, non. J'ai travaillé suffisamment... psychologiquement, pour justement que t'aies une belle vie, quoi.
Mais sans toi, ça aurait été quoi ?
Perdre les choses, ça peut être que temporaire parfois, tu vois. C'est-à-dire que dans une relation que t'as construite depuis beaucoup d'années, pour moi, c'était clair que je te perdais peut-être sur l'instant. Ça aurait peut-être duré 5 ans, 10 ans, mais de toute façon, je t'avais faite.
Ah ouais.
c'est l'émotion totale. France Culture, les larmes.
Toi, tu vois comme un acte plus positif, mais j'ai
moi, je vois comme un acte d'amour. Je pense que c'était fondamental pour moi.
Je suis une fleur, mais qui pique.
Oui, comme une rose.
Ouais. T'as des trucs à me dire?
Non.
Bon, si.
Maman.
Merci à Maria, à sa fille et à sa sœur Laura, à Philippe et Lucie Chester, à Grégoire Korganov et à son fils Marco. Merci aussi à Maxime Denis et à Isabelle Rakidel de l'association Trialogue 76 à Rouen. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire d'Émilie Chaudet, réalisé par Jean-Philippe Navarre.
LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter avant la médiation, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, porter l'hérédité. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, L'expérience, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.